السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. دونك حياكم الله عز وجل en cette soirée du mercredi 27 شعبان 1435 de l'Hégire correspondant 25 juin 2014 bi'idhnillah ta'ala.
Cher, je vais poser la première question inshallah pour éviter de perdre du temps. Question d'une sœur. Salam alaykoum. Nous avons Cher, est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Je pose la première question, la question d'une sœur. Nous avons l'intention avec mon mari d'ouvrir une salle de sport uniquement réservée aux femmes, sans sauna ni piscine, uniquement machine type vélo, rameur, etc. pour entretenir son corps. Sommes-nous responsables des sœurs qui ne couvrent pas leur aura? Si oui, pouvons-nous faire un règlement stipulant les règles afin de se décharger de la responsabilité? Je précise que pour ouvrir la salle, on s'est basé sur l'avis de Cheikh Ibn Oubaiz, rahimahullah, qui dit qu'une femme a le droit de s'exercer en dehors de chez elle s'il n'y a pas de mixité, ni musique, etc. Barakallahu fikum cher, tafadal.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Naam, si jamais elles découvrent leur aura, il y a deux responsables. Elles-mêmes, celles qui ont fait cela, et le responsable de la salle. Pourquoi? Parce que il doit stipuler qu'il y a des règles, que c'est interdit, et c'est pour ça que quelqu'un qui surveille, qui voit s'il y a quelqu'un qui se montre sa aura, il lui dit, vous savez bien que dans le règlement, c'est écrit que voilà la tenue qu'il faut. Vous n'êtes pas en tenue réglementaire qu'on avait stipulée dans les conditions. Naam. Si c'est comme ça en surveillant, d'accord. Mais si on dit que moi, l'essentiel, j'ai mis les conditions, celui qui n'applique pas, c'est sa faute, non. Pourquoi? Parce que c'est ton salon et tu dois surveiller. Non, tu dois surveiller pour qu'il n'enfreigne pas les règlements. Wallahu ta'ala alam. Tfadlal. Salam alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh. Qu'Allah vous garde, amin. Certains parents mentent sur la déclaration de revenus en France, travail au noir, et les enfants voient leur bourse d'études gonflée. J'ai calculé la somme approximative que je n'aurais pas dû toucher sans ce mensonge. Je demande. Je ne sais pas. Je demande. L'argent est-il péché pour moi? Puis-je le donner à ma famille ou à qui donner? C'est la question que je vous ai posée l'autre après-midi. Non, je me rappelle pas, Mahmoud. Al-Mohim. Tant qu'il sait que les parents ont menti, lui, Inch'Allah Ta'ala, il ne doit pas yani participer avec eux. Pour ne pas participer avec eux et se désavouer, donc l'argent qu'il y a en plus, naam, au moins qu'il ne s'en serve pas personnellement, qu'il le donne à des nécessiteux, en commençant par exemple par la famille. S'il y a dans la famille des nécessiteux qui le méritent, naam, il leur donne. Sinon, à des étrangers qui ont besoin de cet argent, bi'idhnillahi ta'ala, il le donne pour yani, purifier son argent, bi'idhnillahi ta'ala, et ne pas participer. Tfadlal.
Prochaine question. Cher, qu'Allah vous récompense. Question d'une sœur. Cher, qu'Allah vous récompense. Je suis enceinte et parfois mon mari m'aide à faire le ménage, car j'ai du mal à cause du bébé. Sera-t-il récompensé? Si oui, quelle sera sa récompense? Barakallahu fikum, cher. Tafadda.
Inch'Allah ta'ala, s'il met dans l'intention qu'il fait ça, et dans le Coran, وَشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ c'est-à-dire comportez-vous avec elle, yani bin ma'ruf, avec un bon comportement. Traduction approximative. Taïb, dans ce cas, Inch'Allah Ta'ala, il a fait une obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, il sera récompensé. Comment? Ce n'est pas cité que celui qui aide sa femme, par exemple, voilà ce qu'il aura exactement. Mais ça suffit que, yani, il a fait une obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et que peut-être, c'est la chose peut-être qui lui manquait pour entrer au paradis. Et ça le sauvera, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, on ne sait jamais. Naam, tfadlal.
Barakallahu fikum, cher. Prochaine question, question d'une sœur. J'ai transmis ma photo à une sœur et elle s'est amusée à la partager partout sur Paltak et sur Internet. Que puis-je faire?
Yannick, qu'est-ce qu'on peut faire dans un cas pareil? La photo, on ne doit la donner qu'à une personne de confiance, à une personne intime, pas à quelqu'un qu'on connaît pas bien ou quelqu'un qui n'est pas mature, hein? Surtout une femme, si c'est des Allemands plus ou moins grave, mais une femme, non, on peut aller lui gâcher tout son avenir, tout son avenir. Le moyen, elle demande à la sœur de lui rendre la photo, hein, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, et quant à elle, elle fait des doigts à Allah subhanahu wa ta'ala, pour que l'affaire ne devienne pas grave, pour qu'on prenne pas sa photo et qu'on fasse des choses avec sa photo et qu'on dise que c'est elle qui a fait ces trucs. Non, elle fait beaucoup de doigts que Allah subhanahu wa ta'ala la protège. Et nous, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de la protéger. Non, tfadal.
Barakallahu fikum, cher. Prochaine question. Question d'une sœur. Cher, je voulais savoir si les quatre rakats avant la première prière de... avant la prière... avant la prière de drôle sont quatre raquettes de suite ou deux raquettes et si on les fait avant l'adhan de drôle ou après. J'espère que la question est claire. Jazakallah khair.
Alhamdulillah, la question est très claire. Les quatre raquettes qu'on fait avant salat d'or rentrent dans les rawatib. Les rawatib, il y en a 12 par jour. Parmi les 12, il y en a 4 avant salat al-dhuhr. Ces 4 rak'at, premièrement, de préférence, on les fait 2 par 2. On fait 2, on dit salam alaykoum, et on fait 2, on dit salam alaykoum. Si on fait 4 à la fois, c'est possible. Mais ce n'est pas mieux que de faire 2-2 à cause du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentique. Salatul layli wa nahar, mathna mathna. Il a dit salatul layl al-bani. La prière de la nuit et du jour. Il a dit, c'est pair, 2-2. Quant à autre chose, non, quand est-ce qu'on on a le droit pour pouvoir les faire? Il faudrait que l'heure de la salat d'Allah, si ce n'est pas encore l'heure de faire salat d'Allah, on ne peut pas les faire. Donc, ça n'a pas de rapport, ça n'a pas de relation avec le Adhan du Dhuhr. Mais ça a une relation avec l'heure du dhuhr. Je vous donne un exemple. En Algérie, l'heure du dhuhr, ces temps-ci par exemple, c'est vers, disons, midi 50, l'heure du dhuhr. Et salat al-dhuhr, c'est quand? Le adhan. C'est 1h, c'est-à-dire 13h, 20 minutes. Donc vous voyez la différence. L'heure de la salat, khlas, on peut prier le dhuhr, c'est combien? C'est même pas 13h. Et le Adhan, c'est quand est-ce? 13h20. Donc, nous, on ne regarde pas le Adhan, on regarde quand est-ce que c'est. Est-ce que c'est le moment de l'heure de Salat al-Dhuhr? Ça se trouve dans les calendriers. Ça s'appelle Zawel. C'est quand le soleil quitte le zénith. Ça s'appelle Zawel. Donc, pour faire les 4 rak'at, il faudrait que le Zawel ait eu lieu. Et que c'est le moment de faire Salat al-Dhuhr. Non. Quand il a appelé à la salat, il n'a pas appelé, ça n'a rien à voir bi-idnillahi ta'ala. Tfadlal.
Prochaine question. Question d'une sœur. Une sœur qui cherche un cours d'arabe n'a trouvé qu'un cours où il y a de la mixité. Peut-elle assister au cours avec le sitar? Bien sûr, le prof est un homme. Et elle ne trouve pas d'autre cours. Barakallahu fikoum, cher.
Celle qui a posé une question, cette question, n'a pas expliqué si c'est en direct ou bien c'est virtuel. Si elle assiste dans une classe où c'est mixte ou bien dans un salon comme nous on assiste et c'est virtuel. Vous pouvez aller ce genre de forum pour apprendre en payant un peu d'argent. Et cet argent n'est pas parti dans le vent. Il est parti fi sabilillah. Car pourquoi j'apprends l'arabe? J'apprends l'arabe pour apprendre le dîn. L'arabe pour l'arabe, qu'est-ce que ça peut me faire? Mais moi, je veux l'arabe pour apprendre ma religion et adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si la personne fait des efforts de sœurs qui donnent des cours d'arabe sur internet, bi'idhnillahi ta'ala. Wallahu a'lam, tfaddal. Et même des sœurs comme ça, il y en a qui donnent pas sur internet, en direct. Si elle fait des efforts, elle peut trouver des cours chez des sœurs. Wallahu a'lam.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc question suivante, chère, question d'une sœur qui dit, c'est au sujet du rattrapage du jeûne pour le Ramadan 2012, donc 2012, chère, hein, pas 2013, 2012. Suite à ma grossesse, je devais 20 jours d'expiation que j'ai fait en nourriture unique après le Ramadan 2013. Donc l'expiation a été faite après le Ramadan de 2013. Après le Ramadan 2013. Avant cela, j'ai rattrapé environ 4 jours, mais je ne sais plus. Puis, pour le Ramadan de 2013, je dois 5 jours de menstrues que j'ai négligé en pensant les faire entre-temps, et je suis à nouveau enceinte de 4 mois et j'ai du mal à jeûner. Donc que dois-je faire pour ces deux Ramadans passés, cher? Je suis mal à l'aise par rapport à cela, et puis-je changer ma niya pour les jours jeûnés pour l'année 2012 en pensant qu'il fallait jeûner dans le cas où l'expiation de nourriture suffisait malgré le retard. Donc, cher, je vais vous mettre la question à l'écrit, ce sera plus simple, je pense.
Taïeb, est-ce que vous m'entendez? Je n'ai pas compris. Est-ce que je peux changer ma niya pour les jours jeûnés pour l'année 2012, en pensant qu'il fallait jeûner dans le cas où l'expiation en nourriture suffisait malgré le retard. L'akh Mahmoud ibn Mohamed, si tu as compris, explique-moi ce qu'elle veut dire. Tfaddal.
Ce que j'ai compris, cheikh wallahu alam, c'est que elle a commencé à jeûner le Ramadan de 2012, alors qu'elle était enceinte. Puis par la suite, elle a fait une expiation pour les jours qui restaient. Et elle veut savoir, je pense, si les jours qu'elle a jeûnés peuvent être changés. Et au lieu de mettre la niya pour 2012, donc sachant qu'elle les a jeûnés en 2012, est-ce qu'elle peut les mettre pour un autre Ramadan afin de compenser et donc expier pour les jours qu'elle a jeûnés, en fait. Je ne sais pas si vous voyez, cher, si c'est un peu plus clair.
Non, elle ne peut pas. Je vais vous donner une règle. Je vais vous donner une règle. Quand quelqu'un fait une chose et la termine, il ne peut plus changer de niya. Quand quelqu'un, il est dans la chose elle-même et il se rappelle. Il y a des choses où on peut changer de niya, oui, et il y a où on peut pas. Quand par exemple dans la salat, je suis dans salat al-duha, ensuite je me dis par exemple que yani, j'ai fait salat al-duha, par exemple c'est la 14e unité. Et j'ai dit le prophète, n'en a fait que 12. Allez, je vais changer de niya, je vais mettre ça nafila, c'est tout, pas doha. C'est possible. Je suis parti d'une salat muqayyada à une salat mutlaqa. Allez, j'ai changé de niya d'une salat, yani, d'une salat particulière doha à une salat générale nafila, c'est permis. Maintenant, si jamais la personne termine, par exemple, j'ai terminé ça doha, ensuite je dis, je vais changer de niya. La doha, je vais la mettre comme nafila simple, ou bien comme fajr, ou bien comme... Ce n'est pas possible. Regardez, je donne un exemple plus important que cela. Plus important que cela. Imaginez que, je dois donner 100 euros comme zakat. J'ai fait le calcul de ma zakat. Je dois donner combien? 100 euros. Ensuite, j'oublie. Qu'est-ce que je fais? Je prends 100 euros, je les donne en aumône, fi sabilillah, à quelqu'un, des pauvres, à une famille. Après les avoir donnés, je me rappelle. Ah, je me dis, subhanallah, je devais donner 100 euros en zakat. J'ai oublié. Donc, je vais changer de niya. L'argent que j'ai donné aux pauvres en aumône, je vais mettre dans la niya. Est-ce que c'est permis? D'après ce que je viens de dire, Fawzi, est-ce que c'est permis d'après la règle que je viens de donner? J'attends ta réponse. Fawzi, tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu as écouté la question? Deux choses. Voilà, je savais que tu n'avais pas écouté. Mahmoud. Bon, Mahmoud est sur portable. Wasbak. Mahmoud, non, il peut pas. Voilà. Pourquoi la règle? Parce qu'il a terminé. Il a terminé quoi? Il a terminé l'adoration, il ne peut pas changer de niya. Donc je dis à cette sœur, même si je n'ai pas très bien compris sa question, je lui dis, pour les jours où tu étais en grossesse, si tu as encore des jours de dette, tu dois expier un pauvre pour chaque jour. Tu nourris un pauvre pour chaque jour. Maintenant, si tu as laissé passer une année et l'autre ramadan est rentré, donc tu attends que le ramadan se termine et tu expies un jour de nourriture pour chaque pauvre, seulement avec des péchés. Un jour de nourriture pour chaque pauvre avec des péchés. Pourquoi ? Pour avoir laissé l'autre à ramadan arriver. Si maintenant la personne a oublié ou bien ceci, cela a des excuses, c'est Allah Ta'ala est pardonneur. Mais si la personne sait et dit, non, je n'expie pas maintenant jusqu'à ce que vienne le deuxième ramadan, dans ce cas, elle a des péchés. Reste pour les monstrues, elle a dit qu'elle a 5 jours ou quelque chose comme ça. Quand le ramadan se termine, elle commence par les monstrues. Elle commence quand le ramadan se termine, c'est-à-dire quand la grossesse se termine, sa grossesse. Et après les lochis, elle commence directement à rattraper les lochis, car les lochis, on ne peut pas expier. Mais on doit rattraper bi'idnillahi ta'ala. Tfadlal.
Barakallahu fikoum, cher. Et je ne doute pas qu'il va y avoir beaucoup de questions, surtout après Ramadan, comme chaque année, des sœurs qui vont dire comment on fait, parce qu'on a des jours à rattraper, on n'a pas pu les rattraper, venu Ramadan, etc. Question suivante. En attendant la question, on demande à la sœur Ibrahim. Donc elle nous dit si elle veut qu'on pose la question numéro 1 ou la question numéro 2. Parce que c'est une question par personne. En attendant, je vais poser la question. Et je pose la question d'un frère qui dit une sœur va effectuer la Umrah, inshallah, et il se peut fortement que ses menstrues arrivent pendant sa Umrah. Certains savants autorisent de prendre la pilule s'il n'y a pas de mal à cela. Mais la sœur ne veut pas prendre de pilule. Que pourra-t-elle faire comme adoration et qu'est-ce qui lui sera interdit de faire, cher ? Pendant la Umrah de Ramadan, si ces menstrues arrivent.
Si les menstrues arrivent pendant la Umrah, et elle n'a pas commencé, elle n'a rien commencé, alors elle attend. Elle attend quoi ? Elle attend qu'elle se purifie pour commencer la Umrah. Si maintenant elle a fait déjà le tawaf, elle a fait déjà le tawaf autour de la Kaaba, dans ce cas, même si les menstrues viennent, elle peut continuer. Elle peut continuer les autres choses, car ça n'a pas besoin de purification. Contrairement au tawaf, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam, tfadlal.
Fouzi, je ne sais pas si c'est à moi que tu as écrit la 1 en priorité. Est-ce que ça veut dire que je dois poser la question numéro 1 de la sœur, c'est ça? D'accord. Donc la sœur demande, cher, elle a lu une parole de Cheikh Ramli, disons, par rapport à la lecture de Sourate Al-Kahf, le jour du vendredi, ce qui est authentique sur le sujet est la parole d'Ibn Iraq dans son livre Tanzih al-Shari'at, lorsqu'il dit « Il a certes été authentifié le hadith concernant la protection du faux messie, le messie Dajjal, et cela par l'apprentissage de certains versets de Sourate Al-Kahf sans aucune restriction sur le jour du vendredi. » Et ceci est rapporté par Muslim d'après un hadith d'Abu Darda. Par conséquent, dehors de ce hadith, le reste est blâmable. Fin de citation. Donc, rien n'est authentique concernant le fait de réciter Sourate Al-Kahf le jour du vendredi. Ce qui est authentique en revanche, c'est la mémorisation de ces 10 premiers versets qui sont une protection contre le Messie Dajjal. Mais Allah est plus savant. Donc voilà la parole de Cheikh Ramli. Et la sœur dit, pouvez-vous m'expliquer cette fatwa, car je n'ai pas comprise, car cela voudrait dire qu'il n'y a pas d'origine dans le fait de lire systématiquement Sourate Al-Kahf le jour du vendredi, cher. Comment réagir face à cette fatwa? Est-ce qu'il y a une divergence entre les savants? Barakallahu fikoum, cher. Donc, pour résumer, cher, est-ce qu'il est sunna ou pas de lire Sourate Al-Kahf tous les vendredis? Est-ce que cela est authentique ou est-ce qu'il y a une divergence entre les savants?
Naam. Quand la personne a dit que, est-ce que cela veut dire que ça n'a pas d'origine? Ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire, est-ce que cela veut dire que, par exemple, le hadith est faible? Car ceux qui ont dit que on ne lit pas Sourate Al-Kahf le vendredi, le hadith qui ont rapport avec le Salat al-Jumu'ah, afwan, la lecture de Sourate al-Kahf, et on dit le hadith est faible, donc je ne lis rien, je ne lis pas Sourate al-Kahf yom al-Jumu'ah. Et ceux qui ont dit que de lire Sourate al-Kahf le vendredi, ils ont dit car le hadith est authentique. Et ceux qui ont dit ça, c'est par exemple l'avis de Cheikh Al-Albani. Et moi je respecte ce qu'a dit Cheikh Ramli, mais je penche vers ce qu'a dit Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, car comme disent les savants, ils disent si deux savants l'âme divergent en une chose, on voit la divergence, on voit yani la divergence sur laquelle ils viennent de diverger, et yani c'est la spécialité de qui des deux savants, comme ça disent les savants. Deux savants divergent sur une chose, je vois une question de fiqh, qui est plus savant entre ces deux savants dans le fiqh, question de hadith, qui est plus savant dans le hadith, et comme ça. Pour moi, je prends de l'avis de Cheikh Al-Albani rahimahullah, en limitant, même je n'ai pas étudié les chaînes de transmission, peut-être que Cheikh Ramli Hafidallah, c'est lui qui a raison, mais moi pour l'instant j'imite toujours l'Albani jusqu'à ce que inchallah ta'ala j'étudie yani la chaîne de transmission pour savoir yani si vraiment le hadith est faible. Tfadlal.
Barakallahu fikoum Cheikh. Question suivante d'une sœur qui dit: concernant la question de la sœur sur les cours dans une salle mixte, pouvez-vous demander à Cheikh qu'en est-il lorsqu'il s'agit d'un frère qui donne un cours à un groupe de sœurs avec un rideau, ou plutôt derrière un rideau? Barakallahu fikoum Cheikh.
Non, il n'y a pas de problème. Si c'est derrière un rideau, ou alors lui par exemple en bas, et eux dans le premier étage, ils l'entendent avec le micro, là il n'y a pas de problème, ce n'est plus mixité, et ils ne sont plus ensemble. Le rideau fait de sorte que ils se sont divisés. Il y a une partie qui est dans une sorte de pièce en deçà du rideau, et l'autre partie qui est dans une autre pièce au-delà du rideau. Naam, inshallah ta'ala, pas de problème. Tfadlal.
Baklaw fikoum Cheikh. Question suivante d'une sœur qui dit: Cheikh, j'aimerais que vous m'expliquiez la fatwa de Cheikh Firkous hafidhahullah, car j'ai quelques ambiguïtés sur le khol et le hanna pour la femme. A-t-elle le droit de sortir avec le khol aux yeux et le henné aux mains? Car c'est ce que j'ai compris, et donc je vous ai envoyé la fatwa Cheikh en whisper. La fatwa de Cheikh Firkous, mais là, vous la connaissez peut-être déjà Cheikh.
La fatwa de Cheikh Firkous, je l'ai oubliée. Je sais que Cheikh Ibn Wathib rahimahullah dit que ce n'est pas permis de sortir avec le henné dans la main. Et il a dit que ça rentre dans la zina. La zina, c'est-à-dire la parure qu'il faut cacher. Pour le khol, je ne me rappelle pas. Quant à ce qu'a dit Cheikh Firkous, j'ai oublié. Je pense qu'il a dit que c'était possible, mais j'ai oublié. Mais il faudrait que je relise bi'idhnillahi ta'ala. Donc je prends note de... Je vais voir dans le site, inshallah ta'ala. Et je vous réponds, inshallah ta'ala. Je réponds à cette sœur quand ce sera la première série de questions-réponses dans la deuxième semaine du Ramadan, inshallah ta'ala. Tfadlal.
D'accord, barakallahu fikoum Cheikh. Question suivante d'un frère qui dit: la prière du vendredi faite avant l'heure de Salat Dhuhr est-elle valide? Je précise que dans la mosquée de mon quartier, qui n'est pas une mosquée salafi, le Jumu'ah commence à 13h pour finir vers 13h40, sachant qu'il fait la khutbah en arabe, en français et Salat al-Jumu'ah. Alors que Salat Dhuhr est prévu pour environ 14h10. Donc la personne commence Jumu'ah à 13h et finit à 13h40, alors que Salat Dhuhr est prévu à 14h10. Et donc sa question est: la prière du vendredi faite avant l'heure de Salat Dhuhr est-elle valide, Cheikh?
Non, pour la prière de la Jumu'ah, il n'y a pas, inshallah ta'ala, de problème. Parce que, même au temps du prophète, on la faisait tôt. Et c'est possible de la faire tôt. Dès que le Zawal rentre, Yani c'est possible de la faire, et même un peu avant le Zawal. Un peu avant le Zawal. Contrairement à Salat al-Dhuhr. Contrairement à Salat al-Dhuhr, qui doit toujours, yani, être faite après Zawal. Wallahu ta'ala alam. Tfadlat.
Cher, question suivante d'un frère, ou plutôt d'une sœur, ou un frère qui pose pour une sœur, Allahu alam, qui dit: une fille souhaite se marier avec un homme, mais qui n'est pas de la même ethnie. Et son père refuse cette union, donc à cause de cela. Elle est tombée enceinte, hors mariage, et a accouché. Elle souhaite toujours se marier avec cet homme, mais son père refuse toujours. Peut-elle se marier sans l'accord de son père?
Elle ne peut pas se marier sans accord. Sans accord. Elle ne peut pas se marier sans accord. Là, sauf maintenant reste le problème. Si maintenant le père, yani, le frère remplit toutes les conditions, il ne veut pas la marier. Ensuite vient un deuxième, il ne veut pas la marier. Et comme ça. Sinon, il est possible que son père, yani, lui cherche quelqu'un qui est mieux que celui-là. Et qu'il a vu en lui que, par exemple, il ne remplissait pas les conditions. Et comme ça. Non. Donc la personne, yani, doit essayer de convaincre le tuteur pour la marier, bi'idhnillah ta'ala. Fadlat.
Question suivante, cher, d'un frère qui dit: je souffre d'un handicap depuis 3 ans. Sallallahu alayhi wa shifa ya akhi. À cause de mon traitement médical, je n'ai pas jeûné les 2 derniers ramadans. Même si mon état ne s'est pas amélioré, j'aimerais essayer de jeûner cette année, inshallah. Je voulais savoir s'il est permis dans mon cas de veiller la nuit jusqu'au fajr pour pouvoir dormir une bonne partie de la journée et essayer de tenir jusqu'au maghrib. Barakallahu fikoum cher. Je précise qu'on m'a posé une prothèse dans le dos et que les médecins ne garantissent pas de guérison.
C'est possible de répéter la question, barakallahu fikoum.
13 donc. Son état ne s'est pas amélioré, mais il aimerait essayer de jeûner cette année, inshallah. Et pour ce faire, donc, il demande s'il est permis de veiller la nuit jusqu'au fajr et dormir une bonne partie de la journée. Et je pense que cela, ça l'aidera donc de tenir jusqu'au maghrib sans manger, sans boire, etc. Et il précise donc que sa maladie est qu'on lui a posé une prothèse dans le dos. Et les médecins ne garantissent pas de guérison.
Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais, alhamdulillah, dans sa religion, dans cet islam, ce bel islam, n'a jamais, yani, mis une charge sur le dos d'une personne, une charge qu'elle ne peut supporter. Je dis à ce frère, bi'idhnillah ta'ala, qu'Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala te guérisse. Naam, si tu ne peux pas jeûner, tu vois. Si ta maladie est guérissable, tu attends jusqu'à ce que tu guérisses, et yani, si tu manges bien sûr, et tu rattrapes. Et si maintenant ta maladie est incurable, tu manges. Si la maladie est incurable, qu'est-ce que tu fais? Inch'Allah ta'ala, tu manges et tu nourris pour chaque jour manger un pauvre. Mais de là, yani, te forcer et ne pas dormir la nuit, etc., juste pour jeûner, et peut-être ensuite ça va te faire mal et ça va te faiblir et ça va, je ne te conseille pas, bi'idhnillah ta'ala, surtout que Allah ta'ala t'a donné une permission. Donc c'est à toi de voir. Si tu peux jeûner, alhamdoulilah. Tu peux pas, tu vois. Si tu guéris, tu rattrapes, tu guéris pas, tu nourris chaque jour un pauvre, bi'idhnillah ta'ala. Donc c'est toi qui sais, même le médecin il sait pas. Toi tu essayes, ma'alish, comme tu as dit, dors un peu et tu vois. Si tu vois que tu as la tête qui tourne, tu ne peux plus, tu veux tomber, etc., je te conseille de manger. Si tu vois que les choses sont normales, patiente, tu auras des récompenses, inshallah ta'ala.
Barakallahu fikoum cheikh, qu'Allah facilite donc à ce frère qui cherche tous les moyens pour faire le jeûne, quand nous cherchons tous les moyens d'avoir une excuse de ne pas jeûner ou autre. Là, il faudrait profiter de la ni'ma, de la santé, subhanallah. Question suivante d'un frère qui dit: je voudrais savoir quel est l'avis des savants concernant la vision de la lune en France. Je ne sais pas si sa deuxième partie de question, cher, c'est: est-ce que vous connaissez l'association de l'Observatoire lunaire des musulmans de France, afin de savoir, ou si quelqu'un sait comment il procède, si c'est par calcul ou autre. Donc, cher, quel est l'avis des savants concernant la vision de la lune en France? Donc comment doivent faire les musulmans de France par rapport à la lune de Ramadan, Cheikh?
Ibn Mohammed, si tu étais présent dans le prochain passé, le cours passé, ou celui d'avant, j'ai répondu à cette question. Est-ce que tu peux répondre et moi je t'entends, Inch'Allah Ta'ala.
Si je ne me trompe pas, Cheikh, je suis arrivé juste à la fin de cette question. C'est à ce moment-là que je suis arrivé, juste à la fin. Donc je ne sais pas si les frères présents peuvent répondre à ma place. Car je ne sais pas ce que vous avez répondu, Cheikh.
Brièvement, j'ai dit que si Hadouta France, s'ils se basent sur les calculs, il ne faut pas jeûner avec eux. S'ils se basent sur la lune, jeûner avec eux. Donc c'est à voix de demander là-bas, ils se basent sur quoi? Si maintenant ils se basent sur la lune, d'accord. S'ils se basent sur les calculs astronomiques, alors il faut jeûner avec, par exemple, l'Arabie Saoudite. Voilà, Inch'Allah Ta'ala. Tfadlal.
D'accord, fait comme cher. Question suivante. Question d'une sœur qui dit, si on a l'opportunité de s'exiler en terre d'islam, mais que rien là-bas n'est assuré, a-t-on le droit de conserver ses prestations sociales, telles que le congé parental, allocation familiale, etc., afin de faciliter le départ, à savoir payer le loyer, se nourrir, etc., sachant que ceci n'entraîne aucune fausse déclaration, ni aucun mensonge, et que ceci ne sera que pour un temps limité. Barakallahu fikoum, cher.
Vous regardez avec les lois du pays où vous êtes. Si vous êtes en France, par exemple, vous regardez ce que dit la loi française. Si elle dit que vous restez, par exemple, 3 mois, 6 mois, 8 mois, 1 année, et yani, profitez des prestations, alors prenez les prestations. Mais si la loi interdit et dit que si jamais quelqu'un dépasse, par exemple, là-bas 1 mois ou 2 mois, il n'a plus le droit de prendre. Dans ce cas, s'il prend, ça veut dire que c'est du vol. Naam. Tfadlal.
Les réponses aux questions dans les contrats qu'ils passent avec les sociétés et autres. Question suivante d'un frère qui dit, je voudrais savoir si la prière de Tarawih à la mosquée est plus récompensée que la prière de Tarawih à la maison avec ma femme. Donc si je peux prier à la maison avec ma femme, m'est-il possible de diriger la prière avec un mushaf, car je ne connais pas beaucoup de sourates. Donc que lui conseillez-vous, cher, de prier à la mosquée Tarawih avec les musulmans, le jama'a, ou de prier avec sa femme en suivant à travers le livre?
Je lui conseille de prier à la mosquée, avec le jama'a, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 3 ou 4 nuits, avec les sahaba, et comme l'ont fait les sahaba, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de siècle en siècle, jusqu'à de nos jours. Si jamais maintenant, il prie quelques nuits, par exemple avec sa femme, ce n'est pas interdit. Et dans ce cas, ça lui est permis aussi de prendre le Coran entre les mains et de le poser quand il s'incline et quand il se prosterne, d'après le hadith de Aïcha radiallahu ta'ala anha, qu'elle avait quelqu'un qui l'a guidé, qui s'appelle Dukwan. Et le hadith se trouve dans le Bukhari. Et comme quoi, il avait un mushaf entre ses mains. Un mushaf, il l'a guidé avec un mushaf. Non, mais ce hadith a été cité dans le Bukhari ta'liqan. Ta'liqan. Non. Fadlal.
Question suivante d'une sœur qui dit, cher, je suis une sœur et j'aurai une question concernant Tarawih. J'habite juste en face d'un masjid, alhamdulillah, Allahumma barik, et je voulais savoir s'il m'est possible d'accomplir salat Tarawih sur mon stah, donc sur ma terrasse, sachant qu'il y a des baffes, donc j'entends la récitation bi-idnillah, et la plupart du temps je serai seul, donc je ne serai pas en rang, et je suis également enceinte. Masha'Allah, nasa'Allah ta'ala, dhuriya saliha li jami' al-muslimin.
Naam, ce n'est pas permis. Ce n'est pas permis d'être guidé par quelqu'un si yani, on n'est pas dans le même endroit que lui. C'est-à-dire si il y a, par exemple, des rues ou des routes qui nous sépare, de façon à ce que des voitures passent, des bus, des gens qui marchent. Ces choses-là annulent yani la continuité. Il faudrait qu'il y ait continuité entre nous et l'imam. Ah, mais maintenant, s'il y a des rues et les gens qui passent et les voitures, etc., on ne peut plus, l'imam ne peut plus nous guider, il n'y a pas de suivi, de continuité entre lui et nous. Naam. Tfadlal.
Question suivante d'une sœur qui dit: je voudrais prendre conseil auprès de vous concernant mon frère. Nous sommes convertis depuis quelques années et avant, il avait un bon comportement et faisait au moins ses obligations religieuses et même un peu plus. Mais depuis quelque temps, il traîne avec de mauvaises fréquentations et adopte un mauvais comportement à tous les niveaux. Par exemple, il ne prend pas ses responsabilités envers sa femme et ne travaille pas afin de subvenir à ses besoins. De plus, il ment souvent, il n'est jamais à la maison, mais passe presque tout son temps dehors. Il s'énerve très vite lorsqu'on lui fait des remarques. Il arrête de temps en temps la prière, mais pas tout le temps. Et donc, je voudrais vous demander conseil pour pouvoir l'exhorter discrètement, sans qu'il s'en rende compte, car je crains qu'il ne le prenne mal et que ça n'empire la situation. Ça ne fasse empirer la situation. Comment doit réagir sa femme vis-à-vis de son comportement également, cher?
Et Naam, elle doit patienter un peu et essayer de voir si les choses s'améliorent. Si elle voit que les choses s'améliorent, alhamdoulilah, et Allah Ta'ala, Azza wa Jal, la science. Si maintenant elle voit que les choses empirent, et ça va de grave en grave, elle fait comme a dit Allah dans le Coran, Naam, c'est-à-dire elle fait venir, elle charge quelqu'un de sa famille, et elle demande à quelqu'un de sa famille, à lui, de se rencontrer pour voir ce qui se passe, voilà le problème, et les autres décident. Si ce sont des musulmans, bien sûr, ils décident donc comment faire et est-ce qu'ils doivent les laisser continuer ou les séparer ou les aider. Non. Si maintenant les parents du reconverti ne sont pas musulmans, par exemple, ou bien ses parents, elles, dans ce cas, c'est elle qui prend la décision, non, en voyant quel est le mieux pour sa religion d'abord à elle. Est-ce que le mieux c'est de rester avec cet homme ou alors elle est en train de régresser avec lui, surtout si, comme elle a dit tout à l'heure, qu'il délaisse la prière de temps en temps. Celui qui peut délaisser la prière une journée, il n'y a pas de différence, il peut la délaisser 3 mois et une année. Et celui qui délaisse une seule prière, je dis une seule, pas une journée, celui qui peut délaisser une seule prière sans excuse, celui-là, c'est quelqu'un de grave. Certains ont dit, des salafs, ont dit qu'il est devenu kafir. Certains des salafs ont dit que celui qui délaisse une seule prière est devenu, comment? Est devenu, bien, mécréant. Non. Donc c'est grave. C'est grave. Donc c'est à elle, Inch'Allah Ta'ala, de voir sinon, si elle voit que ça empire et qu'elle ne peut pas grouper ses parents et ses parents, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui donne un ultimatum. Elle lui dit, écoute, moi, j'ai patienté, je voulais le bien, je voulais ton bien aussi, je ne voulais pas se séparer, etc., détruire le couple. Mais voilà, je te donne encore, par exemple, 2 ou 3 mois, si, alhamdoulilah, tu reviens vers le haq, alhamdoulilah, sinon, moi, je peux pas rester avec quelqu'un qui délaisse la prière. Par exemple, Naam. Wallahu ta'ala alam, kullahu ta'ala l'aid. Tfadl.
Allah fait comme cher. Question suivante d'un frère qui dit: est-ce que je peux faire agent de sécurité dans un musée ou un magasin? Allah fait comme cher.
Si c'est dans un magasin, il faut voir que vend ce magasin. S'il vend des choses de haram, ça veut dire que je vais surveiller le haram. Vous avez compris? Si c'est un musée, il faut voir aussi qu'est-ce qu'il y a dans ce musée. S'il y a des statues, s'il y a ceci, cela, ça veut dire que je vais maintenant être, yani, le surveillant des statues. Allah Ta'ala a envoyé des messagers pour détruire les statues. Et moi maintenant, je vais être un surveillant des statues pour, yani, les préserver, pour, vous avez compris? Vraiment, ça marche pas. Non. Wallahu Ta'ala alam. Tfadlal.
D'accord, fait comme cher. Question suivante d'une sœur qui dit: peut-on se servir de Zakat al-Mal pour des utilités publiques, comme la construction d'un puits, d'une école, etc., sachant que c'est un village où la grande majorité sont des gens très pauvres au Niger? Certains payent eux-mêmes la zakat en céréales, pas en argent, car ils n'économisent pas suffisamment sur une année. Mais il n'y a pas vraiment de riches. Donc est-ce que dans ce cas-là, il est permis de faire zakat al-mal en construisant des écoles, des puits, etc.?
La zakat al-mal, Zakat al-mal, Allah subhanahu wa ta'ala l'a très bien expliqué et montré dans le Coran que ça contenait seulement 8 catégories. 8. Et parmi les 8, il n'y a même pas le fait de construire une mosquée. Si tu donnes ta zakat pour construire une mosquée, vous savez la récompense que Allah ta'ala donne à celui qui construit une mosquée. Mais si jamais maintenant tu donnes de l'argent de la zakat, ce n'est pas permis. Subhanallah, la mosquée, vous savez ce que ça veut dire la mosquée. Pourquoi? Car Allah ta'ala a montré qu'il y avait 8 catégories seulement auxquelles on peut donner. La 8e, il a dit Fisabilillah, ce n'est pas, ça veut dire, il y a une Fisabilillah en général, tout ce qui est charité, tout ce qui est, yani tout ce que Allah Ta'ala aime. Non. Sinon, on fait rentrer la mosquée. La mosquée, c'est aussi Fisabilillah. Le puits, c'est Fisabilillah. Non. Les savants ont dit Fisabilillah, ça veut dire, pour le djihad, par exemple, ou pour le hajj, quelqu'un qui n'a pas pour aller au hajj, je lui paye le hajj. Quelqu'un qui veut aller au djihad, je lui achète les armes, par exemple, et ce qu'il faut. Si le djihad, c'est le vrai djihad, pas le djihad des khawarij. Le vrai djihad. Vous avez compris, j'aide avec mon argent. Ça peut rentrer dans la zakat. Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, ça peut rentrer aussi quoi? D'acheter des livres, etc. pour quelqu'un qui étudie les sciences religieuses, pas autre chose. Si c'est les mathématiques, c'est pas permis. L'anglais, c'est pas permis. Si c'est philosophie, c'est pas permis. Arabe, c'est pas permis. Sciences religieuses, c'est permis. Il doit prendre le hadith, le faire, tafsir, au sol. Il n'a pas les moyens, je lui achète les livres avec l'argent de la zakat. Les puits, il n'y a pas. Il n'y a pas dans le Coran qu'on peut donner pour un puits. La mosquée qui est mieux qu'un puits, on ne peut pas donner. Vous avez compris? Maintenant, si les gens sont pauvres, on leur donne pour leur pauvreté. Ensuite, eux, si avec cet argent, chacun va mettre une part d'argent de la zakat et ils vont construire un puits, ils sont libres, bi'idnillah ta'ala. Naam, tfadl.
Maklaw fait comme chère question suivante d'une sœur. Mes parents sont commerçants. Chaque mois de Ramadan, dans notre village, est organisé un marché le samedi et le dimanche, durant lequel tous les commerçants du village participent. Mon père est devenu vieux et ma mère est malade. Donc c'est à moi et mes petites sœurs de prendre leur place sur le marché pendant ce mois de Ramadan, donc de vendre à la place de leur père. Seulement, il y a de la mixité dans ces journées, mais aussi les organisateurs mettent des anachides toute la journée. Ma question est, dois-je obéir à mes parents et aller vendre au marché? Barakallahu fikoum, cheikh.
Ouf, si quelqu'un peut esquiver, ne pas faire cette chose, qu'il ne la fasse pas. C'est vraiment difficile pour une femme d'aller vendre comme ça dans un marché, d'être du matin au soir avec les hommes qui viennent acheter, entendre des choses qui ne sont pas bien, plus... Vous savez comment a dit le prophète, il a dit... Et les plus mauvaises, c'est quoi, il a dit? C'est le souk, c'est le marché. Donc quelqu'un est dans le souk, il est dans l'endroit le plus détestable. Subhanallah l'adhim. Qu'en est-il pour une femme? Donc s'il y a moyen, comment essayer? Yani de ne pas faire cette chose, ce serait la meilleure des choses. Bi'idnillahi ta'ala. Tfadlal.
Marklaw fait comme chère question suivante d'une sœur qui dit: dans notre communauté, la famille est très importante, à tel point que je me sens obligé d'agir envers eux financièrement et de culpabiliser émotionnellement si je n'agis pas. J'ai grandi avec cela et jusqu'à présent, alhamdoulilah, j'ai toujours voulu leur venir en aide financièrement parce que je gagne bien plus qu'eux tous réunis. Et eux sont originaires d'un pays pauvre. Cependant, leurs besoins me poussent souvent à me priver et me donnent l'impression de priver mon fils également, sachant que je suis une mère célibataire, et c'est depuis quelques années. Et constatant, Allahu A'lam, qu'ils ne reconnaissent pas le mal que je me donne, je pense à arrêter mes efforts à leur égard et me consacrer principalement à mon fils, car il n'a qu'Allah Azza wa Jal puis moi comme soutien. Ma question est de savoir si en faisant cela, je ne vais pas tomber dans le haram, en refusant l'assistance à ma mère, car c'est pour la soulager, elle, que j'aide les autres membres de ma famille. J'ai peur d'être injuste envers elle et mon fils. Donc, que lui conseillez-vous de faire, cher?
J'ai très bien compris, sauf quand tu as parlé de sa mère. Non, il y avait un mot qui a sauté, ce mot qui a sauté a tout changé. Donc, qu'est-ce que ça a à voir ici avec sa mère?
En fait, la raison principale de ses dons, donc de l'argent qu'elle donne, c'est surtout pour aider sa mère financièrement. Et en même temps, elle aide sa famille. Mais la raison principale, c'est surtout sa mère. Et donc, elle a peur si maintenant, elle arrête ses dons, donc ses aumônes, et qu'elle se consacre à son fils, ça sera une injustice envers sa mère. Et d'un autre côté, elle a peur qu'en aidant toujours comme ça sa famille, elle soit injuste envers son fils. Donc, que lui conseillez-vous, cher, en fait?
Les aides qu'elle faisait, est-ce que elle a dit que elle aidait sa mère ou elle a parlé d'autres? Moi, j'ai cru entendre qu'elle parlait d'autres. Tfadal, et vérifie bien.
Naam, cher, elle a dit qu'elle aidait toute sa famille, mais la raison principale, c'est qu'elle veut aider sa mère, en fait. Et en même temps, elle aide sa famille. Mais c'est surtout pour aider sa mère, en fait. C'est ce qu'elle dit. À la fin, elle dit, est-ce que je ne vais pas tomber dans le haram en refusant l'assistance à ma mère, car c'est pour la soulager que j'aide les autres membres de ma famille. Naam, y compris sa mère. Donc je pense que si elle ne les aide pas financièrement, ça va être à sa mère de faire plus d'efforts, financièrement ou autre. Ou c'est elle qui va le ressentir aussi. Alors que quand elle les aide financièrement, ça allège la charge sur sa mère. Allahu alam.
Allahu alam, ça c'est toi qui l'as déduit. Peut-être c'est pas ce qu'elle veut dire. Moi, peut-être je comprends que, yani, en aidant les autres, sa mère est contente d'elle. Et maintenant, elle a peur, si elle arrête, que sa mère ne soit pas contente. Donc, passe à une autre question, le temps qu'elle réponde, qu'elle nous explique. C'est pas très clair. Tfadal.
Donc, si la sœur peut apporter des informations à Fawzi. Barakallahu fikoum. Question suivante d'un frère qui dit, une sœur demande, quelle relation peut-elle entretenir avec ses demi-sœurs qui sont des adultérins chrétiennes qui ont pris contact avec moi de leur gré, sachant que je ne connaissais même pas leur existence et mon père ne m'en a jamais parlé. Non, mon père m'en a jamais parlé et ma mère ne connaissait pas non plus leur existence. Elles veulent apprendre à me connaître, donc quel comportement avoir avec elles? Peut-il y avoir un lien ou dois-je les ignorer? Barakallahu fikoum, cher.
Essaye d'abord, si elles veulent te connaître, donne-leur l'occasion de te connaître. Ensuite, à travers cette connaissance, tu leur montres que tu es une musulmane et que, inshallah ta'ala, tu leur fais, Allah ta'ala t'a donné une occasion de leur faire la da'wah. On ne sait jamais que ce sera une cause. Non, personne ne sait ce qui va se passer d'ici demain. C'est pour cela que, dans leur voilà, je suis une musulmane, j'applique l'islam, voilà ce que dit l'islam, etc. Si tu vois que elles sont contre et qu'elles n'aiment pas écouter et qu'elles te disent ouf, on n'a pas besoin de ça ou de là, à partir de ce jour-là, ignore-les et ne cherche plus après elles. Et si tu vois que yani, elles t'écoutent, du moins, si elles n'acceptent pas, du moins, yani, elles t'écoutent, te laissent parler, essaye de comprendre, mais allez, tu patientes avec elles, c'est-à-dire sans parler avec elle dans les choses qui sont haram ou bien d'aller avec elle vers les lieux. Non. Donc il faut les tester et voir yani, qu'est-ce qu'elles veulent exactement et est-ce qu'il y a des possibilités, inshallah ta'ala, de le faire. De la sœur de tout à l'heure, est-ce qu'elle a donné des confirmations? Sinon je réponds comme j'ai compris car c'est l'adhan ici. Tfadal.
Naam, cheikh, elle a répondu, en fait, apparemment, on avait tous les deux raison. Donc, quand elle le fait, ça allège les responsabilités sur sa mère, alhamdoulilah, et ça lui fait plaisir.
Alhamdoulilah, donc, si elle voit que ça fait plaisir à sa mère, elle ne devrait pas hésiter, inshallah ta'ala, à faire cette chose, car elle attire envers elle le ravissement de sa mère, et ça va lui aider à lui ouvrir beaucoup de portes, bi'idhni ta'ala, et à refouler d'elle beaucoup de malheurs et de difficultés, sauf que si elle voit que ce qu'elle donne par exemple est beaucoup par rapport à elle et que elle-même elle en a besoin de cet argent pour d'autres projets ou autre chose. Dans ce cas, yani, elle doit convaincre sa mère et lui dire que voilà, yani, tu sais que par exemple telle famille, je l'ai aidé, etc. Avec en donnant par exemple 100 euros par mois, c'est un exemple. Et maintenant, tu sais, ma mère, que yani, j'ai besoin de ceci et cela. Maintenant, je ne vais leur donner que yani, 40 ou 50. J'espère que, inchallah, ta'ala, tu comprendras. Quant à toi, ma mère, si tu as besoin pour toi spécialement, yani, n'hésite pas, inchallah, ta'ala, yani, autant que tu voudras, bi'idhnillahi ta'ala. Voilà la réponse d'aujourd'hui, les cours d'aujourd'hui, c'est le Adhan. On va se rencontrer, inchallah, ta'ala, dans la deuxième semaine du Ramadan après le Tarawih, comme chaque année, bi'idhnillahi ta'ala. Je demande à Allah ta'ala qu'il nous aide pour yani, faire le siyam et le qiyam, et pour qu'il nous facilite la rencontre dans la deuxième semaine du Ramadan. Subhanak Allahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Surtout que pendant le Ramadan, quand on fait, il n'y a pas beaucoup de monde, comme vous savez, dans le salon. La plupart, yani, il y en a qui dorment, il y en a qui ne viennent pas, il y en a qui sont dans la prière, etc. Donc vous pourrez, inchallah, si on n'est pas nombreux, posez tous vos questions, bi'idhnillahi ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.